You're with SBS Radio.
Bonne nouvelle pour les contribuables australiens. Le gouvernement fédéral a réussi à convaincre suffisamment d'élus indépendants au Sénat pour que l'ensemble de son projet de baisse d'impôt sur le revenu, qui porte donc sur un montant total de 158 milliards de dollars sur 10 ans, soit adopté. C'était effectivement un point important puisque la coalition emmenée par Scott Morrison ne dispose pas au Sénat de la majorité absolue des sièges. Mais parmi les crossbenchers, la sénatrice tasmanienne Jackie Lambie a annoncé qu'elle voterait pour ce projet de loi, en échange de quoi elle a demandé au gouvernement de faire un effort sur le logement social en Tasmanie. Et on a aussi les élus de la Centre Alliance ainsi que le sénateur Cory Bernardi, qui ont également annoncé qu'ils soutiendraient ce projet de loi. Alors ce n'est en revanche pas le cas du leader de l'opposition travailliste, Anthony Albanese, qui aurait préféré que les crossbenchers se rallient plutôt à la cause du Labour, le Labour qui demande le découpage de ce projet de loi qui comporte trois phases.
This has been a bluff by the government, saying, threatening to hold up tax cuts today because of something that might happen in 2024-2025. That's why Labor has argued for more tax cuts sooner into every worker's hand right now. That's what the economy needs. That's what Labor will be pursuing in the Senate.
Et de son côté, le ministre des Finances, Matthias Cormann, n'a pour sa part pas souhaité s'étendre sur les concessions qui ont été accordées à ces sénateurs indépendants en échange de leur soutien.
Today is about income tax relief for millions of hardworking Australians. The issues that have been raised with us, we will deal with in good time. But what I can say to you today is that while the Labor Party was engaged in political games and division, even in petty student political games, like moving amendments to the title of the bill in the House of Representatives, what were they thinking?
Et direction maintenant Bruxelles, où après quelques atermoiements en ce début de semaine, les Européens sont parvenus à un accord pour désigner les dirigeants des principales institutions européennes. Parmi eux, il y a notamment David Sassoli, c'est un ancien journaliste italien. Il vient de prendre la tête du Parlement européen, un poste auquel il succède à un autre Italien, Antonio Tajani. En revanche, c'est la Française Christine Lagarde qui remplace Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne et Federica Mogherini, qui était la chef européenne de la diplomatie, a elle été remplacée par l'Espagnol Josep Borrell. C'est donc une perte d'influence assez importante pour l'Italie au niveau européen, ou pour être plus précis, c'est surtout une perte d'influence pour le gouvernement populiste qui dirige actuellement l'Italie. C'est en tout cas l'avis du politologue Giuseppe Bettini. On l'écoute répondre aux questions de nos confrères de RFI.
Alors, Mario Draghi, je pense que comme Christine Lagarde, c'est un choix d'abord de compétences et de ligne économique et politique. Donc oui, il était italien, mais c'est un homme hors norme d'un patrimoine international, exactement comme Christine Lagarde, c'est un patrimoine international, si on peut ainsi dire. Il est vrai que l'Italie a été un peu écartée, mais le choix du Parlement européen a été fondamentalement de faire barrage, si on regarde les personnalités et au populisme comme celui de Matteo Salvini. Matteo Salvini a critiqué lourdement le choix de David Sassoli, un homme recruté parce que de gauche, un journaliste de la RAI, donc évidemment quelqu'un qui a été apparenté à quelqu'un d'autre, exactement ce que David Sassoli n'est pas. Ça veut dire que c'est le très bon choix, celui d'un homme qui est absolument indépendant. Or, l'Italie a perdu du poids. Mais l'Italie a perdu du poids autant que tous les gouvernements populistes européens ont été mis un peu à l'écart.
Et on franchit maintenant la mer Méditerranée pour rejoindre la Libye, où un centre de détention pour migrants qui se trouve dans la capitale Tripoli a été frappé par une attaque aérienne, une attaque qui a tué au moins 44 personnes et en a blessé 130 d'après les Nations Unies. C'est l'attaque la plus grave intervenue sur le sol libyen depuis le lancement, il y a 3 mois, d'une offensive menée par des fidèles de Khalifa Haftar sur Tripoli. Hassan Salamé, qui est l'envoyé spécial des Nations Unies, a condamné ce bombardement qui, selon lui, relève du crime de guerre. Charlie Yaxley, qui représente, lui, le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, pense que cette attaque aurait pu être évitée.
Just 2 months ago, we warned after a similar airstrike that injured 2 other refugees and migrants that this was a pressing danger and that the people inside needed to be urgently evacuated. No action was taken, and today we've seen the tragic consequences of that with some of the detainees paying the price with their lives.
Et de son côté, le porte-parole de Khalifa Haftar a quant à lui nié toute responsabilité dans cette attaque.
We were surprised to see the false claims that a migrant camp was targeted. This area houses no migrants and no Libyan civilians. The weapons supply coming from Misrata came through this point. Therefore, we destroyed a legitimate target of our enemy. If the claims are true, they brought those illegal migrants to that area on purpose.
Et la tension monte entre Pékin et Londres à propos des manifestations en cours à Hong Kong. Les autorités chinoises ont formellement demandé au Royaume-Uni de ne pas interférer dans leurs affaires intérieures. Et l'ambassadeur chinois à Londres, Liu Xiaomin, va même jusqu'à dire que les relations entre les deux pays se sont détériorées en raison, selon lui, du ministre britannique aux Affaires étrangères, Jeremy Hunt, qui a apporté publiquement son soutien aux manifestants de Hong Kong. On l'écoute.
They still regard Hong Kong and the British rule, and they forget that Hong Kong have not returned to the embrace of the motherland. So I would call them to hands off Hong Kong and, you know, show respect.
Et le coup de semonce des Chinois n'a pas beaucoup plu au ministère des Affaires étrangères britannique, puisque le ministère a donc décidé de convoquer l'ambassadeur chinois. Et il précise à propos de ce qu'il a déclaré que ses déclarations sont inacceptables et inexactes. On prend maintenant la direction du toit du monde en Inde, où le corps de l'alpiniste australienne Ruth McCants a été héliporté depuis un sommet isolé de la chaîne de l'Himalaya, un mois après que sa disparition a été signalée. Cette femme faisait partie d'une expédition de 8 personnes dont on avait perdu la trace donc le mois dernier après qu'ils aient été victimes d'une avalanche pendant leur ascension du mont Nanda Devi East. Le corps de 7 de ces 8 alpinistes ont été retrouvés la semaine dernière. Ils sont toujours en cours d'identification d'après Vivek Kumar de la police australienne, de la police frontalière indo-tibétaine.
They are under process of taking some DNA sample of the bodies. Followed by, they will probably send the dead bodies to Haldwani, which is in Uttarakhand, for further process of the handing the bodies to their respective countries through their diplomatic channels.
Et on quitte l'Himalaya, mais on reste en Inde, qui est actuellement en proie à des inondations terribles. Le phénomène n'a en fait rien d'exceptionnel, puisqu'il revient tous les ans. Pourtant, les autorités y semblent toujours aussi mal préparées. On fait le point à Bombay, où déjà 30 personnes sont mortes ces derniers jours, avec Antoine Guinard de RFI.
Les images sont impressionnantes, mais devenues presque banales. Des rues inondées, la circulation et les transports publics au point mort, des piétons avec de l'eau jusqu'à la taille et plus de 200 vols annulés. Bombay subit depuis 2 jours ses plus importantes précipitations depuis 10 ans. Les médias indiens font déjà état d'une 30aine de morts, dont les 2/3 dans l'éboulement d'un mur le long d'un bidonville provoqué par la montée des eaux. Plus d'une 100aine de personnes ont également été blessées dans ces inondations. Les quartiers les plus bas de la ville sont complètement submergés, alors que de nombreux habitants ont dirigé leur colère vers la municipalité pour son manque de préparation. En 2017, déjà, des pluies diluviennes avaient paralysé Bombay, mais c'est surtout en 2005 que la ville a connu ses inondations les plus meurtrières, dans lesquelles plus de 500 personnes ont trouvé la mort. L'année suivante, une commission avait été créée afin d'établir un plan d'action pour désengorger la ville en cas de déluge. Malgré des dizaines de millions d'euros dépensés, les projets de construction de stations de pompage et surtout de modernisation du système de drainage obsolète de la ville restent largement inachevés. Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Et en Italie, ce n'est pas la pluie qui tue, mais un volcan. Le Stromboli est entré en éruption, et ce qui a causé le décès d'une personne. D'après les services de secours qui ont été dépêchés sur place, cet homme a été tué par la chute d'une pierre projetée dans les airs par le volcan. qui a par ailleurs entièrement recouvert l'île où il se trouve de cendres. Donc le volcan Stromboli en fait se trouve sur une petite île qui se trouve au nord de la Sicile et c'est l'un des volcans les plus actifs du monde. Il est en état d'éruption quasi permanente depuis 1932. Aéronautique, l'avionneur américain Boeing a annoncé qu'il allait verser 142 millions de dollars australiens aux familles des 346 victimes des deux crashs en Indonésie et en Éthiopie qui ont été provoquées par un défaut de leur avion, le Boeing 737 MAX. Boeing a précisé que ces versements étaient indépendants des recours en justice qui ont été intentés par certains des proches des victimes. Et le Boeing 737 MAX, on rappelle que lui est cloué au sol depuis le mois de mars. On revient maintenant en Australie où pourtant la législation sur le tabac est l'une des plus strictes au monde et pourtant plus de 6400 fumeurs meurent encore chaque année de maladies cardiovasculaires. C'est le résultat d'une étude menée par l'Australian National University qui a suivi 190 personnes sur une période de 7 ans. Une observation qui lui a permis de démontrer que les fumeurs sont 3 fois plus exposés au risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire et 2 fois plus exposés au risque de subir une crise cardiaque que les non-fumeurs. Alors les fumeurs en Australie, ils sont environ 2,7 millions, soit un peu plus que 10% de la population. On prend maintenant la direction de la France où les députés planchent actuellement sur un projet de loi visant à sanctionner plus fermement la publication de contenus haineux sur Internet. Mais certains élus craignent que ce projet de loi, qui part pourtant d'une bonne intention, porte atteinte à la liberté d'expression. On écoute le reportage de Julien Jiquel pour RFI.
Si une plateforme ne supprime pas une publication haineuse dans les délais, la loi prévoit des sanctions financières, une mesure incitative qui inquiète Sébastien Chenu du Rassemblement National, qui craint un excès de zèle de la part des sites.
On imagine bien que tout puisse être évalué comme une incitation à la haine, etc. Alors que des prises de position, des remises en doute de discours publics, etc., ça fait aussi partie de la tradition du débat.
Inquiétude partagée par le député Modem Éric Latombe. Pour lui, un délai trop court peut mener à des erreurs.
En 24 heures, on est obligé de demander aux plateformes d'utiliser des algorithmes auto-apprenants. Ils vont censurer de plus en plus de contenus qui ne seraient pas censurés s'ils étaient regardés par un être humain, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tout à fait haineux, mais qui comportent des mots qui pourraient être assimilés à de la haine. Je ne suis pas sûr que les caricatures de Mahomet, par exemple, passent la modération telle qu'elle est sur Facebook.
Des craintes qui ont fait réagir la rapporteure du projet. Pour Laetitia Avia, ce qui est en jeu, c'est la liberté d'expression des victimes.
Aujourd'hui, on voit un certain nombre de personnes qui quittent les réseaux sociaux, qui hésitent à communiquer leurs idées parce qu'elles ont peur de se prendre en échange une déferlante de haine. Donc à chaque fois qu'on hésite à s'exprimer, parce qu'on a peur de se faire attaquer pour ce qu'on est, la liberté d'expression, elle est mise à mal.
La députée a défendu son projet dans l'hémicycle, soutenu par Cédric O, le secrétaire d'État au numérique qui rappelle « la régulation n'est pas la censure ».
Et il n'y a pas que les députés qui craignent que cette loi accroisse la censure sur Internet et les réseaux sociaux. C'est également le cas d'un certain nombre d'activistes, parmi lesquels des Gilets jaunes, qui se sont invités hier mercredi au Palais Bourbon pour se faire entendre. On va écouter l'un d'entre eux.
On trouve que c'est un danger, cette loi, parce que dans l'absolu, c'est une loi qui se justifie, parce qu'on est contre la haine. Nous, les Gilets jaunes, on est contre toute forme de haine, de violence, tout ça. On est respectueux. La plupart d'entre nous, on est respectueux. On continue la mobilisation dans le respect de tous. Il faut qu'on lève l'ambiguïté. En fait, il faut définir ce que c'est, ce qu'on entend par propos haineux. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quelle censure, une censure à la carte, en fait. Et là, on voit que cette loi risque d'être faite justement pour nous museler, quelque part. On voit qu'il y a une volonté d'étouffer toute contestation contre Macron et son gouvernement. Donc on est là pour demander des justifications et vraiment des garanties par rapport à cette loi contre la haine sur Internet. Vraiment, là, on est inquiet.
On passe maintenant au sport. On connaît maintenant l'affiche de la finale de la Coupe du Monde féminine de football. Ce sont donc les Pays-Bas qui affronteront lundi à 1h du matin, heure de Sydney, les Américaines. Les joueuses bataves se sont imposées cette nuit 1-0 face à la Suède, qui en sont donc à leur 9e victoire d'affilée. Mais ça va être compliqué contre l'équipe des États-Unis qui est favorite, puisqu'elle est triple championne du monde en titre. Et on va parler aussi un petit peu de cricket, puisqu'il y a aussi une Coupe du Monde qui se déroule actuellement. Et en la matière, l'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales, une première depuis 1992, après l'avoir emportée face à la Nouvelle-Zélande. L'Angleterre devrait donc terminer troisième de son groupe et elle affrontera mardi soit l'Australie, soit l'Inde. Et pour finir ce bulletin, on jette un coup d'œil rapide à la météo de ce jeudi. Il pleut à Perth et il fait 18 degrés, 16 degrés et du soleil à Adélaïde, du brouillard à Melbourne et 15 degrés, 14 degrés à Hobart, des nuages et 14 degrés à Canberra, 17 degrés à Wollongong, 19 degrés à Sydney où il y a également des averses, 19 degrés à Newcastle, 23 degrés à Brisbane, 27 degrés à Cairns et comme d'habitude du soleil et 31 degrés à Darwin.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.